Divin chef de ma foi. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Toi, viens, Jésus, et demeure auprès de toi. Hey, c'est super beau, hein? Hey, c'est non beau là. C'est la technologie. Yes, sir. Oui. On n'est pas parti comme je voulais, mais on est parti pareil. Bon. C'est comme un cowboy, tu sais, les ceux qui ont deux fusils, là. Ils font. Alors, un volontaire, s'il vous plaît, pour lire très, très fort Actes 6, 1 à 6. Ouvrez vos Bibles. Je vais aller chercher la mienne. Et je vais aussi ouvrir. Bon, ça c'est un rayon de prière. Invitation pour le mariage. Ah. Ça, c'est une autre affaire. Qui est volontaire pour lire, là, celle du pou, là? Vas-y. Vas-y, ben.
Choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rend de bons témoignages, qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Les élus Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Florent, Nicanor, Simon, Saména et Nicolas, trois élites d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après l'avoir prié, leur imposèrent les mains.
Amen. Merci, Benoît. J'aimerais rattacher aujourd'hui ce que j'ai fait la première semaine. J'avais pensé faire ça dans deux semaines, mais on a eu un interlude entre les deux, là. Et vous savez, comme assemblée, on est en train de vivre des processus au pluriel, mais maintenant, on a le processus qui se termine aujourd'hui pour les diacres. Et j'aimerais tout simplement amener une réflexion sur les actes des apôtres, sur l'Église primitive. Et c'est une des premières fois, justement, où ce qu'on voit qu'on s'organise, on va s'organiser. Et comme j'ai dit l'autre semaine, l'Église, le corps, il est important qu'on s'organise, on doit s'organiser. Et on est orchestré, on est harmonisé par le Saint-Esprit et on avance de l'avant. Et Jésus aussi, il y a deux semaines, c'est-à-dire, j'ai parlé aussi du fait que ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Et ça a comme résultat de l'efficacité, la multiplication de l'œuvre de Dieu, des choses à faire. J'ai aussi pensé cette semaine pour vous parler aussi d'un autre tableau que j'ai. C'est un tableau qui y ressemble un peu. Et c'est un tableau qui va comme ceci, aptitude, attitude et résultat. Alors, ce qu'on voit bien souvent dans tout ça, c'est que grand talent, attitude négative, alors qu'est-ce qui arrive? C'est pas bon, on n'a pas de bons résultats. Grand talent, attitude médiocre, qu'est-ce qu'on a? On a un résultat moyen. Quand que on a ensemble grand talent, attitude moyenne, on a un bon résultat. Et lorsque on a grand talent avec une bonne attitude, par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a de l'excellent résultat. C'est tous des tableaux qui nous font réfléchir parce que dans le fond, le processus que nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons avoir les bonnes personnes à la bonne place avec la bonne attitude et les bonnes aptitudes. Pourquoi? Parce qu'on est l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est là pour travailler pour le Seigneur. Donc, notre vision à nous, c'est pas la vision d'un groupe d'hommes ou d'un homme, c'est qu'on a, nous, à perpétuer, depuis le commencement de l'Évangile, on a à perpétuer la grande commission de Matthieu 28, 19, c'est-à-dire faire des disciples, qui est le seul impératif dans ce verset, et les autres, c'est les participes, en les baptisant, les enseignant, et enseigner ce que le Seigneur a dit, et voici, le Seigneur est avec nous. Alors, comment maximiser comme assemblée les hommes et les femmes de Dieu qui vont avancer, faire avancer l'œuvre du Seigneur? Alors, si je chercherais un titre pour ce matin, ça serait « Choisir pour servir Dieu ». Et je suis convaincu, ces dernières semaines, certains sont fait approcher, puis on leur a dit « Ah, ça te tenterait-tu d'être diacre? » Et là, il y a eu des conversations privées, des gens, certains hésitaient, d'autres ont dit carrément non, ça ne les intéressait pas du tout. Et c'était un peu ça, moi, dans les dernières semaines, les commentaires que j'ai eus qui m'ont apporté à réfléchir avec vous sur cet épisode que nous sommes en train de vivre comme Église. Voyez-vous, ce matin-là, je ne m'adresse pas à ceux qui ont un agenda pour s'en aller de l'Assemblée dans quelques semaines. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas à cœur l'Assemblée du Cap. Je m'adresse à ceux qui ont à cœur de l'Assemblée du Cap. Et on doit avoir des bons fondements bibliques, on doit avoir une bonne perspective biblique pour avoir des bonnes personnes à la bonne place, avec la bonne attitude et des bonnes aptitudes, et que le Saint-Esprit puisse nous guider pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans la Bible dit « Ce qui est vivant est organisé ». Le service dans le Nouveau Testament est quelque chose qui est omniprésent. Et on voit cela, et on voit ça dans les patriarches, on voit ça dans Moïse, Josué, on le voit dans les juges, on le voit aussi, comme vous voyez là, on le voit dans la monarchie, 1 Samuel 8, 5 à 9, où ce qu'Israël veut un roi, et Israël va choisir Saül, et le critère que le peuple de Dieu donnait à Saül, un des critères, c'est qu'il avait une tête plus haute que les autres. Saül était grand. Et là, on a dit, waouh, voilà un guerrier pour l'Éternel, il y a une tête plus que les autres. Mais dans la Bible, c'est organisé. Dieu avait dans l'Ancien Testament des hommes qu'il choisissait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y avait les prophètes aussi. Et dans l'Ancien Testament, dans l'économie avec le Saint-Esprit, les prophètes venaient saisir les prophètes pour une mission quelconque, n'est-ce pas? Et Dieu envoyait des messages à Israël afin que Israël se repente. Dans l'Ancien Testament, ne demande jamais aux croyants d'être serviteurs les uns les autres. Bien important. C'est d'être soumis à l'autorité dans l'Ancien Testament, soumis au roi, soumis à l'Éternel. Mais il n'y a pas d'ordre explicite dans l'Ancien Testament qui dit que vous allez être serviteurs les uns des autres. Les hommes et les femmes, l'Église, l'Ecclésia est au service des uns, des autres, tout en étant au service de Dieu. Et ça, c'est très important pour nous. Et pour aller un peu plus loin dans cela, dans le temps, dans l'Ancien Monde, on disait ceci, comment, car comment un homme peut-il être heureux s'il est esclave de quelqu'un d'autre? C'était inconcevable d'avoir quelqu'un qui va servir quelqu'un puis être heureux en même temps. C'était une antithèse dans l'ancien monde. C'était un monde où il y avait les esclaves et les ceux qui les possédaient. La démocratie n'était pas la chose courante, n'est-ce pas? Et c'était un monde comme cela. Et là, ce qui arrive aussi, c'est qu'il faut savoir que il arrive quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui s'abaisse pour devenir un esclave. Et ça, ça l'a révolutionné la manière de voir ceux qui appartiennent à Dieu. Ça change complètement de l'Ancien Testament. Et on connaît ensemble Philippiens 2, 6 et 8, comme qu'on voit là. Hop, c'est un peu trop loin, là. 2, 6 et 8. Et c'est intéressant de voir un peu ce que le Seigneur nous donne là-dessus. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu, qu'on utilise souvent à la table du Seigneur, comme une proie arrachée, comme quelque chose de retenir à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant forme, une forme de serviteur. Et là, c'est le mot doulos, qui est esclave. Et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. C'est un vrai homme, sans nature pécheresse. Il est venu pour servir. Et l'exemple du Seigneur Jésus, pour nous croyants, c'est l'exemple suprême. Il y a un enseignement qui court dans la Bible. Un an et demi avant la croix, le Seigneur essaie d'enseigner à ses disciples un principe, et c'est le principe qu'on est serviteur des uns des autres. Matthieu 18, 1. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Cette question est venue en faisant un voyage d'environ 35 kilomètres. Les disciples entre eux étaient en train de parler qui est le plus grand. Et vous connaissez l'histoire, le Seigneur prend un petit enfant et dit, si vous ne changez pas votre manière de penser, si vous ne convertissez pas, si vous ne changez pas votre manière de voir, vous ne rentrez même pas dans le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas comme ces petits enfants qui prennent comme un exemple. C'est-à-dire, les caractéristiques d'un enfant, il y a un astinage sur l'âge, là, personne ne le sait dans le fond, mais un enfant, c'est là, ça ne cherche pas nécessairement à dominer, c'est là, ça fait partie de la gang, des fois ça pleure, des fois ça rit. Mais un enfant, c'est un enfant. Et il n'est pas préoccupé pour savoir, moi je vais être le roi, puis vous allez tous me servir. Moi, je vais vous dire quelque chose, puis tout le monde va penser comme moi tout le temps. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit aussi, dans Matthieu 20, la requête d'une maman. Une belle maman qui arrive, et naturellement, les mamans sont très fiers de leur fils. Et là, il veut absolument, la maman veut absolument qu'un soit à gauche, soit à droite, vous connaissez l'histoire. Et puis, en plus de ça, qu'est-ce qu'on connaît, c'est que les autres entendent ça, puis ils disent, waouh, hey, on n'y a pas pensé avant la maman, on aurait dû le demander avant eux autres. Et là, ils sont marabouts, puis là, sont indignés de cette requête d'une maman. Et le Seigneur va leur répondre sincèrement. Il va dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce n'est pas à vous de décider cela. Une autre chose aussi, Actes 20, 25, 26. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et là, c'est important de réaliser que le Seigneur est en train de leur dire, là, écoutez, là, lâchez le modèle du monde. Lâchez le modèle monarchique. Lâchez le modèle pyramidal. Vous êtes des serviteurs les uns des autres. Et comme j'ai dit il y a deux semaines, on est un corps. Toutes les portions, les parties du corps sont importantes. Et nous sommes utiles et vitales pour la santé spirituelle de l'Église locale. Tout le monde est important, dépendant du don que Dieu nous a donné, dépendant de ce que Dieu lui-même nous a placé. Nous sommes importants et vitales pour l'Église locale. Et tout de suite, on voit ça dans Matthieu, le Seigneur essaie d'enseigner à ses disciples ce principe que arrêtez d'avoir ce modèle qu'on va dominer sur les autres, sachez que vous êtes serviteurs les uns des autres. Et c'est une leçon qu'ils ont de la misère à comprendre. Et le Seigneur va continuer en disant, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre diacre. » Parce que le mot « diacre » en français, ça n'existe pas dans le fond. C'est une translittération qui est traduite « serviteur »,« ministère », dépendant des traducteurs. Mais il faut savoir ici que le Seigneur était en train d'enseigner. Écoutez, vous êtes préoccupés pour être le premier dans l'Église, là? Mais dites-moi une affaire. Le premier, là, à mes yeux, dit Jésus, là, c'est celui qui est serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, il va encore plus fort. C'est pas rien que rendre un service, c'est d'avoir une vie d'esclave. Esclave. Les uns aux autres, qui donne une connotation d'une humilité, d'un amour les uns pour les autres, d'un respect profond les uns pour les autres, et d'une attitude de serviteur et de servante les uns envers les autres. Et regardez l'exemple au verset 28 que nous allons avoir de la bouche de Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, diaconéo, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. J'aimerais vous faire remarquer, réfléchissons ensemble ce matin-là, je voudrais vous faire remarquer que le Maître, Jésus, nous a laissé un exemple, pas, oui, un exemple d'humilité, mais aussi un exemple de serviteur. Il dit, « Dans mon Église, vous allez être les serviteurs des uns des autres. » Et si vous regardez le petit mot « les uns les autres » qui paraît 100 fois dans le Nouveau Testament, les Léon, vous allez voir que ça touche toute la vie chrétienne pratique. Pardonnez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. C'est plein dans la parole de toutes ces choses-là. Parce qu'on est serviteurs les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on a un seul agenda. Et c'est la gloire de Dieu dans notre assemblée. C'est pas la gloire de monsieur un tel ou de madame un tel. C'est pas la gloire d'un groupe versus un autre groupe. C'est la gloire de Dieu qu'il faut chercher et il faut mettre en premier dans tout cela. Parce qu'on est tous là pour servir le Seigneur et être serviteurs des uns des autres. Et le Seigneur donne l'exemple. Puis même encore là, on voit, quelques jours avant la croix, trois jours avant la croix, là, qu'on a, Matthieu 23. Ici, le Seigneur est en train de faire ce beau discours. Les premiers versets nous parlent de la fausse spiritualité. Il y a 5 traits de la fausse spiritualité. Puis ensuite, il va se tourner vers ses disciples. Il va dire ceci. « Mais vous, hein, vous qui croyez en moi, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alors, et n'appelez personne sur la terre votre père, votre papousse, en passant. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Un seul. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Christ. C'est lui le directeur. On est tous soumis à lui. Le plus grand parmi vous sera votre diacre. Aux yeux de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. Et le mot diaconéo, le mot diacre, cette famille de mots, est omniprésent dans le Nouveau Testament. Ça caractérise la Nouvelle Alliance. Et selon l'appel de Dieu de chacun, selon les dons de chacun, le corps est formé pour la gloire de Dieu. Mais encore là, regardez, 24 heures avant la croix, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris ce que le Seigneur est en train de leur annoncer. Ils n'ont pas encore compris qu'ils sont là pour être serviteurs des uns des autres. Ça fait un an et demi qu'ils nous enseignent ça. Ils n'ont pas encore compris. Tu dis, wow! Pourtant, c'est simple. Vous êtes assis là, vous autres, vous le comprenez, n'est-ce pas? Dites oui. OK. Vous savez ce que je m'en vais, là? Regardez. Vous connaissez cette belle histoire? quand le Seigneur va laver les pieds des disciples, puis Pierre dit, non, lave-moi pas les pieds, lave-moi tout. Ça, Jésus dit, c'est important ce que je suis en train de faire là. Le Seigneur Jésus est en train de faire la chose que normalement dans le premier siècle, c'était le plus petit dans cette maisonnée faisait, l'esclave ou la plus jeune. C'était l'activité à ne pas faire pour les maîtres et les enseignants. Le Seigneur, pour leur montrer une leçon d'objet, pour leur essayer de leur faire comprendre une fois pour toutes, qui sont serviteurs des uns des autres pour la gloire de Dieu, va nous donner ce beau récit dans le chapitre 13 et dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Avez-vous compris enfin là? Dans quelques heures, je vais être crucifié à la croix. Avez-vous saisi cette vérité? Vous m'appelez maître. Et là, c'est le mot enseignant, c'est pas doulos. Vous m'appelez le grand enseignant, puis vous avez même pas encore compris ce que je viens de vous dire depuis un an et demi. Vous m'appelez Seigneur, Curius, maître, et vous dites bien, car je le suis. Ego eimi, qui est référé à Exode 3, 14, 15. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le maître, et l'enseignant, le docteur, parce que dans d'autres traductions, c'est marqué le docteur, l'enseignant. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Et car je vous ai donné un exemple. Non, enlevez pas vos bottes, puis enlevez pas vos chaussures, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut se laver les pieds. C'est l'exemple. Quel exemple? Quel exemple que Jésus nous a donné? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église au travers des siècles? Que vous n'êtes pas une religion organisée pyramidalement avec des super-héros habillés en or. Non, vous êtes un corps. Vous êtes serviteurs des uns des autres. Vous êtes des frères et des sœurs. Vous êtes là pour glorifier Dieu tous ensemble, puis suivre l'exemple de Jésus, afin qu'on soit une gang de petits Jésus, et que les gens du dehors nous voient vivre ensemble, et glorifient Dieu, et se posent des questions, puis se grattent la tête. Comment se fait ça? C'est pas tous des joueurs de quilles, ils sont tous ensemble. Comment se fait ça? Ils vous posent l'échec toute la gang, puis ils se tiennent ensemble. Comment se fait ça qu'un, il travaille dans telle place, puis l'autre travaille dans une autre place? On peut pas se poser de se parler. Qu'est-ce qui se passe? Et là, l'esprit les attire, puis il voit l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cette attitude d'humilité, de serviabilité les uns vers les autres. Moi, l'Église, c'est très romantique pour moi. Le Seigneur nous laisse un exemple. Quelques heures avant de monter sur la croix. Il dit dans 13, en vérité, je vous le dis, le serviteur, c'est-à-dire doulos esclave, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il essaie de nous dire quelque chose, n'est-ce pas? Il essaie de nous dire à quelque part, arrêtez, brisez, ces sortes de hiérarchies que l'homme aime tellement se glorifier. L'homme veut tellement être adulé. Brisez cela. Vous êtes tous des frères et des sœurs. Quand vous regardez l'autre, regardez-le plus grand que vous-même. Aimez-le. Respectez-le, même s'il n'y a pas les mêmes idées que vous sur certaines choses. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Si nous avons cette qualité d'amour les uns pour les autres. C'est la diversité dans le peuple de Dieu qui fait la gloire de Dieu et pas la conformité. Mes amis, faites attention, il y a une différence entre la conformité et la diversité. La diversité de Dieu démontre la sagesse de Dieu. Puis tout le monde est content qu'il n'y a pas rien que des pissenlits, hein, qu'il y a d'autres sortes de fleurs. Il y a d'autres sortes de fleurs sur la planète Terre, n'est-ce pas? On est tous contents de ça. La diversité, l'écosystème est tellement bien fait. C'est Dieu qui parle. L'Église est tellement bien faite. L'idée magistrale de Dieu, de cette cellule vivante, comme dit Ralph Challis, où que chaque génération redécouvre la vérité de Dieu pour elle-même. Et Dieu, dans son chandelier, éclaire dans un monde pervers et corrompu dans lequel on est. Maintenant, wow, ça je l'ai dit tout à l'heure, le mot « servir » caractérise toute l'économie de la Nouvelle Alliance. Là, il y a des jeunes nantais qui disent « Non, non, c'est la louange qui caractérise la Nouvelle Alliance. » Non, 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 c'est les ministères. C'est envoyer des gens en Afrique, ça caractérise l'Église. Non, 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 ce qui caractérise l'Église, là, mais si vous y pensez comme faut, que ce soit la mission, que ce soit donner aux pauvres, que ce soit l'adoration, lorsqu'on fait ces choses-là, savez-vous qu'on sert en même temps? Le service, le cœur de serviteur et de servante de Dieu fait partie de l'ADN des croyants ou qui vont sortir dans ce monde et servir les démunis, servir ceux qui cherchent, servir en adorant, servir en marchant dans la mission, servir en appliquant la grande commission, cette bonne nouvelle. Le service. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand on sert, on donne de la part du Seigneur. Bon, on va faire un petit voyage dans le temps pour 3 minutes. C'est intéressant de voir le premier péché de l'Église primitive. C'est le premier péché d'Israël. Le murmure. Savez-vous ce que le mot murmure veut dire? C'est assez intéressant. Ça veut dire chatouiller l'oreille. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose à quelqu'un pour pas que les autres entendent. Fait qu'on arrive près de l'oreille, puis moi je faisais ça aux enfants des fois, là. Je faisais semblant de parler, puis là, ça chatouillait, je faisais ça. C'était le fun. C'est ça, murmurer. C'est l'Église murmure au chapitre 6. Puis il y avait peut-être des raisons légitimes de dire ça fait pas mon affaire, là, les Grecs là, qui sont venus ici, là, nous autres, les Hébreux, on est négligés, là, puis nos femmes sont négligées, là. Les Hélénistes, là, eux autres, là, ils arrivent ici, là, puis ils pognent toute la place, là, ils nous tassent, puis ça va faire. Alors, il y a de même fait que la sagesse, on prend une machine à reculer dans le temps, là, on arrive là dans les actes, là, puis on voit la sagesse des 12 là, qui voient là, wow, on va-tu commencer à ouvrir une épicerie là pour un instant? Nous autres, là, Dieu nous appelle à l'enseignement, à la prière. On a de l'ouvrage par dessus la tête. Et dans ces circonstances, on aurait besoin d'aide. Et c'est là que certaines traductions ont inventé le mot diacre. Mais dans le fond, dans l'original, ils vont dire tout simplement, hey, on a besoin de serviteurs. Des serviteurs qu'on va déléguer ce service, cette tâche. Et là, on voit ce qui se passe. Et là, c'est quand même un modèle. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'autres modèles, mais c'est le modèle néo-testamentaire, dans le fond. Et c'est un peu ça qui se passe. Donc, dans ce modèle, on peut peut-être, nous autres mêmes, tirer des conclusions. Mais c'est juste à 4, toi à 37, qu'on comprend vraiment de ce qui se passait. Et ça nous dit tout simplement qu'il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. En passant, le verbe « vendait deux maisons », c'est que, attention, c'est pas comme j'ai déjà vu, on vend toutes nos maisons, on s'en va tout en campagne à Champlain, là. Non, non, c'est pas ça. C'est arrivé ça, mais c'est pas ça. C'est le texte, c'est très clair. S'ils vendaient leur maison, un ou le terrain, un après l'autre, quand le besoin se faisait sentir. Alors, c'est ça qui arrivait. Et là, on peut comprendre un peu les apôtres, que eux, c'est la prédication, c'est l'enseignement, c'est les prières, l'aspect spirituel, ils ont besoin d'aide. Et là, là, le monde arrive avec ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ce tas d'argent-là? On n'a pas le temps vraiment. On n'a pas à cœur, même pas à cœur de faire ça. On n'est pas appelé par Dieu pour faire ça. On va se trouver quelqu'un qui va faire cela à notre place. Donc, on a ces beaux mots. J'appelle ça le processus néo-testamentaire, c'est-à-dire 6-3. Et c'est tout là. Ils vont élire, choisir, et le mot qu'il y a là, c'est ek, appeler, legomène, qui veut dire appeler. Alors, ils vont choisir, tout simplement, des gens. Ils vont élire. C'est traduit élire. Un, qu'est-ce qu'ils font? Dans 6-2, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont convoquer la multitude. Mais pas n'importe quel, c'est les disciples. Êtes-vous d'accord? Pardon? Bon. OK. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir 7 mâles. C'est bien clair. Anair, ça veut dire mâle. C'est pas anthropos qui veut dire femme et homme. Ils vont choisir 7 hommes. D'accord? Êtes-vous d'accord? OK. Et là, ils sont dans une situation tout à fait particulière, n'est-ce pas? Ils sont vraiment là, dans un problème. La chicane est pognée, le murmure est pogné. Puis là, ils choisissent des hommes. Et là, ils vont simplement leur dire, « Ah, nous prend du monde qui font le métier de la table. » 15 fois dans le Nouveau Testament, le métier de la table. C'est pas nécessairement servir des spaghettis dans un souper bénéfice. C'est pas ça que ça veut dire. Le métier de la table dans le Nouveau Testament, dans le premier siècle, c'est un métier qui varie tellement. Ça parle de négociation, c'est même une banque, c'est même des tables où on faisait des échanges, du troc, c'était des places où on payait les impôts. Le métier de la table était quelque chose de répandu. Et c'était tout simplement un terme, métier de la table, servir aux tables, qui disait, les personnes qui sont là, ils vont tout simplement s'occuper de notre problème, de nos besoins. On a un problème. On a un besoin particulier et on veut des gens qui savent ce que c'est l'argent et qui savent ce que c'est administrer. Donc, c'est des administrateurs. On les charge de ces emplois. Et c'est assez intéressant, catistémie, qui veut dire montrer la job, c'est-à-dire. Les apôtres, ils ont dit, voici, on a l'argent à nos pieds, là, puis voici comment vous allez faire, puis faites-le. OK? Et là viennent toutes sortes de modèles de relations anciens diacres. Ensuite, il va dire, la nécessité, on est dans quelque chose de nécessaire. On a discerné un besoin, on a discerné un problème. Vous êtes, vous, le métier de la table, vous êtes chargé, on vous montre qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est distribuer égal à chacun afin qu'il n'y ait plus de murmures, plus de chicanes, et on va vous charger, on va vous donner la main d'association devant tout le monde et dire à tous, là, qu'un, eux, va s'occuper du problème. Ils vont faire ce qui est nécessaire pour régler le problème que nous vivons. Donc, le serviteur devant l'assemblée sous le regard de Dieu, leur qualification. Naturellement, il faut que ce soit des gens, s'il a été accusé 3-4 fois de vol à l'étalage, on ne le prendra pas pour distribuer l'argent, c'est sûr. Mais, non, je le sais, je le sais. Savoir tirer les joints, savoir peinturer, savoir pelleter les marches, savoir planter un clou. Voici les qualifications, là. Hein? Savoir jongler avec 4 balles de ping-pong en même temps. Et là, on aurait des bons diacres. Hein? Ça serait-tu merveilleux, ça? Surtout quand c'est tout en boucan et tout est brûlé. Hey, ça en prend-tu des diacres? Hein? Mais si vous avez la définition général du Nouveau Testament, dans le sens général, on est tous des diacres et des diaconesses. C'est que là, ce qui arrive, c'est que On a choisi cet homme pour un problème spécifique. On l'a mis en tâche, on l'a mis en procession des choses à faire. Et là, il y a tout un comité ad hoc ou un comité qui s'occupe de faire régler le problème et faire ce qui est nécessaire. Mais c'est quoi les qualifications? Non, je ne ferai pas les 19 qualifications ce matin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais regardons ce qu'a les actes. Regardons la sagesse du Saint-Esprit dans les actes, ce qu'ils vont nous dire. Et c'est assez intéressant. J'ai une citation de quelqu'un me dit, Michel, si tu cites John MacArthur, il n'y a pas de problème au cap. J'ai pris M. MacArthur. Les qualités spirituelles requises dans les deux cas, c'est-à-dire anciens et diacres, okay, sont essentiellement les mêmes en termes d'excellence et de maturité spirituelle. La barre est fixée aussi haute pour les uns que pour les autres. La seule différence, c'est que l'ancien doit être propre à l'enseignement. Et même, je pourrais aller plus loin. Il y a plusieurs commentateurs qui vont vous dire que tout ce qui est demandé au diacre, il est demandé à chaque homme et femme dans l'assemblée. On devrait être tous qualifiés. Parce que c'est un chrétien qui reflète la gloire de Dieu dans le service. Et les critères essentiels, c'est pour ça que je voulais le faire l'autre semaine, mais c'est pas grave, le Seigneur a décidé autrement, c'est bien. Les critères essentiels que le candidat doit posséder selon Acte 6, 3. On va y aller avec ça. Regardez bien. Un bon témoignage. Quelqu'un qui a un bon témoignage. C'est quoi ça, un bon témoignage? Bien, la parole d'un proverbe nous dit « La réputation est préférable à une grande richesse et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » Ecclésiaste va dire « Une bonne réputation vaut mieux que le parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Êtes-vous posé la question? Comment se fait ça, le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance? Parce que le jour de la mort, tu rencontres le Seigneur. C'est bien meilleur. On a une perspective éternelle. Puis, voyez-vous, en fin de compte, le bon témoignage, c'est qu'en fin de compte, on ne peut pas se lever debout et pointer du doigt la personne et l'accuser criminellement et le faire arrêter par la police parce qu'il a volé 5 cents. Un bon témoignage, c'est quelqu'un qui reflète Jésus dans ses valeurs et sa morale. Un bon témoignage, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait absolument rien. Un bon témoignage, c'est justement quelqu'un qui fait des choses pour le Seigneur et il garde un bon témoignage. Il n'y a pas de nuage noir sur sa tête qui se promène. Un bon témoignage. Voyez-vous, dans les actes, on ne voit pas, comme dans Tite et Timothée, on ne voit pas tous les détails. Mais ici, on voit l'essence même. Un bon témoignage. Quelqu'un qui inspire confiance. Est-ce que vous avez suivi la lutte un matin, les trois qui... les libérales, là, les trois leaders, là? Hein? Là, c'est un combat de coq, là. Puis je me disais moi-même que c'est exactement l'inverse qui devrait se passer à l'Assemblée. Ce que tu vois dans la politique, là, c'est l'inverse qui devrait se passer à l'Assemblée. C'est qui les leaders? C'est les serviteurs. Puis, à quelque part, un bon témoignage. Jean-Luc nous a parlé des témoignages d'un puis de l'autre ce matin. Mes amis, le bon témoignage. C'est comme puer de la bouche, ça. Ça te suit partout. Excusez. Mais, ça te suit. Bon. Regarde le deuxième, c'est assez embêtant, hein? Être rempli du Saint-Esprit. Regardez-vous dans le miroir, là, demain matin. Puis posez-vous la question, en regardant dans les yeux, suis-je rempli du Saint-Esprit? C'est gênant de répondre à ça, hein? Mais si vous êtes tout seul dans les toilettes, c'est pas pire. Mais devant tout le monde, ça c'est gênant. Puis les apôtres insistent à être remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est soumis à la direction du Saint-Esprit dans sa vie. attaché aux Écritures. Quelqu'un qui n'a pas de favoritisme, quelqu'un qui est impartial, où la gloire de Dieu est plus importante que la gloire des hommes. Être rempli du Saint-Esprit, ah oui, hey, il y en a 9. Surtout le troisième, moi, que j'aime bien gros. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Là, j'entends encore qu'il y en a qui disent, « Ah, Michel, tu mets la barre haute. Qui peut dire qu'il est rempli la plénitude de l'Esprit? » Qui ne l'est pas? On attriste le Saint-Esprit dans lequel on est. Puis, je peux vous dire, avoir le temps, là, je pourrais vous le démontrer. Avoir marqué ça, ça arrive souvent dans la vie, ça. On fait quoi pour le Seigneur? On est rempli de l'Esprit, on témoigne le Seigneur. Les versets nous viennent, ça va bien. La personne accepte le Seigneur. Tu te vires de bord, tu sautes dans ton char, tu pognes une étiquette, puis tu as envie de battre la police. Non, mais tu sais, c'est charnel au bout de cette réaction-là. Là. Pourtant, quelques minutes après, tu venais de faire de quoi? De bien spirituel. Être celui qui gère sa vie selon l'Esprit Saint, qui est notre parakléos, cette terre. Celui qui est le notaire qui nous conduit, cet avocat qui nous conduit dans les Écritures. Notre soumission aux Écritures. Où ce que nos valeurs, notre manière de vivre, notre morale va jusqu'à la mort. Parce qu'on suit Christ. Par la grâce de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Puis moi, je rajoute à ça Éphésiens 4:31 parce que c'est pas un état, mais je pense que c'est un processus continuel de garder notre intérieur propre. Être rempli de cette décision que si j'arrive à telle chose, je me repens. Si la parole me dit quelque chose, si un jeune frère ou une jeune sœur vient me reprendre avec la Bible, je vais lui dire merci. Parce que j'avais attristé le Saint-Esprit dans cette attitude-là. C'est important de savoir que c'est un processus. Continuellement, le verbe est de continu dans Éphésiens, soyez continuellement, toujours remplis continuellement du Saint-Esprit à lequel vous avez été scellés, qu'on est rempli. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement, être rempli, parce qu'on grandit dans le Seigneur. Et le troisième critère, c'est le critère d'être rempli de la sagesse. Et je vais le faire rapidement, mais ce n'est pas le moindre. Quelle sorte de sagesse est-ce que le Saint-Esprit met dans les Actes des Apôtres pour qu'on puisse avoir des hommes qualifiés qui vont pour des choses importantes, décidées entre deux réunions d'affaires, d'administrer les choses de Dieu? Quelle sorte de sagesse? Et vous l'avez deviné, j'ai mis le verset, la crainte de l'Éternel. Crainte Dieu au point que je ne ferai pas des choses qui déplaient à Dieu. Pas de compromis, pas de complaisance, pas de favoritisme. Mais rester sage, une science des saints, c'est l'intelligence spirituelle. Et lisez la requête de Paul. Dans le premier chapitre de Philippiens, quand il prie pour les Philippiens, cette église qui aime tellement, qui a pris soin de lui monétairement, la seule église, et qui lui dit qu'il prie pour eux afin qu'ils trouvent les choses les meilleures, qu'il y ait une sagesse et une intelligence, quoi? Spirituelle. Et essayer de voir les choses comme Dieu les voit. On peut avoir des perceptions d'un paquet d'affaires, frères et sœurs, mais notre premier problème, c'est qu'est-ce que Dieu voit, lui? Qu'est-ce que Dieu en pense? Et ces trois critères qui sont généraux d'un certain sens, mais qui peuvent aller très pointus, vous savez. Puis j'exhorte tous les frères qui ont été parlés cette semaine, la dernière semaine, à y réfléchir comme il faut dans tout cela. Puis de prendre une bonne résolution, de marcher sous la lumière de Christ. Honnêtement. Et avoir à cœur le témoignage et l'honneur du Seigneur Jésus dans l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Et là, on voit les apôtres, les envoyés par Christ, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Encore là, regardez, je l'ai mis exprès pour ça. Même les apôtres, c'était des diacres. Et on l'a traduit ministère, mais c'est diaconos qui est là. Le même mot. On sert avec la parole, on sert avec des services, on sert tous. On est des serviteurs et des servantes. Vous savez, j'ai mis ça. C'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Pour terminer. Y a-t-il un diacre dans la salle? Y a-t-il un diacre dans la salle? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que lorsqu'on va, on va dans quelques semaines, dans 4 semaines environ, fin avril, venir ensemble pour choisir dans la prière, dans la maturité, des hommes choisis spécifiquement pour une tâche, une nécessité. Ça prend des, avec tous les 3 critères, l'appel de Dieu dans la vie des personnes. J'ai toujours été là. Moi, je parle avec n'importe qui de servir Dieu, là. Je dis toujours, quel est ton appel? Est-ce que Dieu t'appelle à cela? Est-ce que Dieu appelle? Mes motivations pour accepter. Qu'est-ce qui m'inspire pour accepter être diacre? Avez-vous une conviction que Dieu vous appelle à cette tâche spécifique comme homme de Dieu à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-Madeleine? Êtes-vous appelé à construire l'honneur du Seigneur et la gloire de Dieu dans l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine? Votre cœur est-il là? Est-il là? Jean-Luc a lu la semaine passée notre énoncé de mission. En réponse à la grâce dont Dieu a fait preuve à leur égard, les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-de-Madeleine croient qu'il leur a confié la mission. Et voici notre mission. Il n'y a pas d'autre. Glorifier la personne de Dieu. Réconcilier les gens avec Jésus-Christ, l'évangélisation, sortir l'évangile des 4 murs. Et faire des disciples, des adultes dans la foi et dans la conduite. Avec une communion fraternelle chaleureuse avec les autres croyants. C'est qu'on reconnaît qu'on n'est pas tout seul à l'Assemblée du Cap. Il y a d'autres croyants sur la planète Terre. Puis le dernier mot, c'est l'engagement. Engagement dans le service. Le diaconat à travers l'Assemblée. Pas dans une structure, mais des serviteurs et des servantes de Dieu qui avancent pour Dieu, pour glorifier Dieu. Et si vous n'êtes pas engagé devant Dieu pour nous aider, pour coopérer, pour nous assister, pour être des co-ouvriers avec Dieu pour l'Assemblée du Cap, ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais on a besoin de chacun de vous. Vous êtes important pour le Seigneur. Vous êtes dans un foyer spirituel qui a besoin de vous. Puis vous devez décider de vous engager. Il y a des tâches énormes qui nous attendent. Énormes. Mais Dieu est plus grand que n'importe quelle tâche. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur va rétablir sa gloire et son honneur à l'Assemblée du Cap. Prions. Seigneur, je me questionne moi-même, Seigneur, afin de m'examiner moi-même. Et nous tous ensemble, nous nous tournons vers ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Regarde nos cœurs, Seigneur. Regarde nos motivations. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Fortifie-nous. Fais de chacun de nous ici, hommes et femmes, des membres importants du corps dans ton assemblée au Cap. Seigneur Dieu, on est ensemble sous ton regard, puis on sait que tu es un Dieu qui ne donne pas ta gloire à un autre. C'est pour cela, Seigneur, qu'on te répète, on te le dit, à toi toute la gloire, Seigneur, pas un homme, pas des hommes. Relève ton Église, Seigneur Dieu, relève ton nom, et ceux qui nous regardent de l'extérieur vont donner gloire à Dieu de voir ta main puissante qui nous a relevés, Seigneur, des cendres. Ô Seigneur, relève ton nom parmi nous et ta gloire. Reçois, Seigneur Dieu, notre admiration, parce que tu es un Dieu qui nous accompagne et qui réjouit nos cœurs de savoir qu'on est avec toi pour avancer ton œuvre au Québec, à la gloire de ton nom. Amen. 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 Merci.